Monsieur Anse-Georges Dologili, bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'être investi par votre parti, l'URCA, comme candidat aux élections présidentielles, sachant que par le passé, vous avez été au second tour. Qu'est-ce que vous avez de nouveau et qu'est-ce que vous portez pour la République à travers cette investiture?
Déjà, je voudrais remercier les militantes et les militants de l'URCA de m'avoir à nouveau fait confiance. Pourquoi est-ce que j'ai accepté d'être candidat? Parce que je pense que je peux apporter beaucoup à ce pays. Vous savez, j'ai eu la chance, par rapport à beaucoup d'autres, d'avoir eu une expérience de la vie, une somme d'expérience professionnelle, une connaissance du monde, une vie à l'international qui fait que je connais beaucoup de choses. Je sais comment beaucoup ont résolu leurs problèmes et je suis assez dégagé pour apporter des solutions. Je suis un retraité de la Banque centrale. J'ai quand même une vie correcte. Je ne fais pas de la politique comme j'ai vu beaucoup pour commencer à quoi accumuler les maisons et tout ça à partir de 60 ans. Et je vois qu'il y a une frénésie. Non, je me consacre, je veux me consacrer pour les quelques années que Dieu me laisse encore en vie. Je veux consacrer ça à essayer de moderniser mon pays et de donner une chance aux jeunes.
Vous êtes ambitieux, mais s'il faut aujourd'hui apporter quelque chose aux Centrafricains dont ils rêvent, sujet porteur pour solutionner le problème centrafricain, ce sera lesquels?
Je pense que, contrairement à ce que beaucoup d'hommes politiques disent, il faut apprendre aux Centrafricains, à chaque Centrafricain, de rêver de devenir riche. On a l'impression qu'en Centrafrique, ici, quand vous parlez de la richesse, vous insultez les gens. On essaie de mettre dans leur tête qu'ils sont pauvres, qu'ils sont condamnés à être pauvres et qu'ils doivent mourir pauvres. Et que chaque fois que quelqu'un parle de richesse, ils se moquent d'eux. Non, ils ne sont pas différents des autres êtres humains.
C'est ce qui justifie votre position d'obédience libérale.
Oui, c'est-à-dire, je pense que moi, j'ai pas été homme d'affaires, mais j'ai été banquier. Et j'ai vu comment des hommes d'affaires qui ont commencé petits ont pu, grâce au concours bancaire, grâce à leur bonne connaissance des rouages, devenir des milliardaires. Je voudrais que ça se passe ainsi pour les Centrafricains. Quand j'étais à la B2AC, je souffrais du fait que, comme l'État doit beaucoup d'argent et continue de devoir beaucoup d'argent à la B2AC ne pouvait pas financer beaucoup d'opérations. Mais les opérateurs économiques, je les cherchais pour les financer. Il n'y en a pas d'opérateurs économiques en Centrafrique. Je voudrais qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui prennent des risques en affaires. Et la politique que je veux mettre en place, c'est encourager chaque jeune à rêver d'être riche. Et je pense que c'est possible. Le jour où ce pays aura 10, 15, 20, 50 milliardaires, vous allez voir que naturellement, le pays va changer. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un homme riche? Ça veut dire qu'il y a un homme qui a les moyens d'embaucher beaucoup d'autres Centrafricains, qui eux-mêmes ont un salaire qui leur permet d'embaucher d'autres Centrafricains ensuite. Un seul riche a une chaîne qui permet à plus de 1000 personnes de vivre. C'est comme ça qu'on résout les problèmes de pauvreté dans un pays.
Vous allez créer la richesse et redistribuer alors que la situation sécuritaire en Centrafrique aujourd'hui ne s'y prête pas. Ne pensez-vous pas que aujourd'hui notre position dans la sous-région est une faiblesse, donc un handicap pour le développement de ce pays?
Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Je n'aime pas trop les discours. Régler des problèmes de sécurité, c'est des mesures pragmatiques. Qu'elles soient en termes de négociation ou qu'elles soient en termes d'action, il faut être pragmatique. J'entends beaucoup de discours depuis 5 ans et la situation ne fait que s'aggraver. Parce que les gens n'ont pas envie de résoudre le problème. Ça les arrange. Il y en a qui traitent avec ces chefs de guerre.
Vous voulez parler du chef de l'État?
Il y a des relations commerciales. Ils se reconnaîtront, ceux dont je parle. Il y a des relations commerciales qui font que les chefs de guerre se foutent d'eux parce que ils les tiennent. C'est pas eux qui tiennent les chefs de guerre. Ce sont les chefs de guerre qui le tiennent. Alors tout ça sur le dos du peuple centrafricain. C'est des problèmes qui doivent être résolus avec beaucoup de pragmatisme, de détermination et d'organisation. N'oubliez pas que le pays est en insécurité depuis 1996 et qu'il n'y a eu que 2 ans où il n'y a eu pratiquement aucun coup de feu, c'est quand j'étais Premier ministre. Je suis quelqu'un de très pragmatique.
On vous reproche cette histoire de 10%. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette histoire et comment comptez-vous s'y prendre pour permettre aux Centrafricains de comprendre les enjeux de cette affaire?
Mais je ne veux me prendre nulle part. Vous savez que j'ai été ministre des Finances il y a 20 ans. Et quand j'étais Premier ministre, on m'a conservé le titre de ministre des Finances. Et il y a si peu de choses à trouver sur ma gestion que aujourd'hui on entend des gens qui, à l'époque, avaient 5 ans, 10 ans, répéter comme des ânes, c'est le terme, comme des ânes, 10%. que quand le FMI prête de l'argent à un pays, quand le ministre des Finances rembourse cet arriéré-là, on lui donne 10%. Le FMI a été créé aussitôt après la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous imaginez le nombre de pays dans le monde, le nombre de ministres des Finances qui se sont succédés. C'est des dizaines de milliers. Donc chacun a eu 10%. Vous imaginez le nombre de ministres que le pays a eu avant moi, après moi. Donc chacun a eu 10%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, le ministre des Finances actuel a 10% parce qu'il rembourse les dettes du FMI. Personne n'a jamais parlé. Généralement, quand quelqu'un fait quelque chose, on dit, ah, celui-là est en train de faire telle chose. C'est en 2013 quand j'ai annoncé ma candidature que c'est né sur Internet. Beaucoup de gens tiennent ce raisonnement. Le Centrafricain est un mouton. Il suffit de répéter quelque chose 2, 3, 4 fois. Lui aussi, il répète 2, 3, 4 fois. C'est une injure au Centrafricain. Mais il y a des gens qui utilisent ça avec enthousiasme. Ils me font pitié. Et, pour finir, quand vous observez le pouvoir de Touadéra, c'est 90% que chacun prend. Donc on va dire quoi? Que Touadéra est monsieur 90%? Mais si c'est ça, il faut que ce soit son nouveau surnom.
Aujourd'hui, la situation sécuritaire dans le Mbomou, au sud-est de la République centrafricaine, demeure préoccupante, avec pour corollaire un député molesté, une équipe médicale prise en otage par les hommes de l'UPC. Comment vous réagissez à cette situation?
Je suis inquiet, énervé et inquiet. Énervé parce que je vois l'UPC, le chef est venu ici il y a quelque temps, pris par avion, voir de Loguele, ancien premier ministre, candidat aux élections présidentielles, personne me prendant en hélicoptère pour aller à Bukaranga faire de la politique. Ce monsieur-là, on l'a transporté, je ne sais pas s'il n'y avait pas d'avion de combat pour l'escorter jusqu'ici, et reçu à grande pompe, on lui a fait signer un papier qu'il a contesté après. Il fait ce qu'il veut. Que font ces gens-là? Le médecin, il va pour la Croix-Rouge pour soigner des centrafricains. Même ceux-là des groupes armés peuvent tomber malades, il peut les soigner. Le député qui est député de l'URCA, il va dans sa circonscription s'inscrire sur la liste électorale et inciter les populations de Mboki à s'inscrire sur la liste électorale. Ils vont rendre des services à l'État centrafricain, à la population centrafricaine, à leur pays. Et il leur arrive ce qui leur arrive. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe depuis. Et c'est comme si c'était un non-événement. Vraiment, ça m'indigne. Ça m'indigne parce que je scrute l'horizon, j'essaie de voir qu'est-ce qui est fait pour ces deux personnalités et je n'ai pas de réponse. Ça m'indigne. J'espère qu'au gouvernement, il y a des gens qui pensent que ça peut leur arriver aussi, que ça peut arriver à leur famille, que ça peut arriver à des gens qui leur sont proches. J'espère qu'ils ne vont pas abandonner ni le gouvernement, ni la communauté internationale, abandonner ces personnalités à leur triste sort. J'espère que non. Je ne veux pas faire un procès d'intention, mais j'espère que les dispositions seront prises rapidement pour que ces personnalités